Salut, c'est Thomas de Claque. J'interviens juste avant le début de l'émission pour vous faire part d'une nouvelle qui est tombée là au moment où je monte l'épisode. C'est cette semaine, la semaine prochaine à partir du 10, le début des votes pour les Podcastéo Awards. Les Podcastéo Awards, qu'est-ce que c'est ? C'est un prix de l'association Podcastéo pour récompenser les podcasts de l'année. Qui peut voter ? Eh bien c'est vous. C'est vous, chers auditeurs. Il suffit pour cela d'aller sur les internets, vous tapez Podcastéo Awards. Je vous mettrai un petit lien vers le règlement. Et quand les votes auront commenté, je mettrai un petit lien vers les votes dans la description. Et vous pouvez, du 10 au 15 février, voter pour les présélections, les qualifications, si on veut, le premier tour du concours pour vos podcasts préférés. Vous pouvez citer tous les podcasts que vous voulez. Alors certains les machos, j'espère, mais aussi tous ceux qui vous passent par la tête. Certains les machos surtout. Ça commence lundi, ça finit samedi prochain. Et si jamais vous n'écoutez pas l'épisode dans ce délai-là, du 17 au 23 février, ce sera les sélections finales, ce sera la grande finale, où là par contre ça sera un QCM, on ne pourra voter que pour un seul podcast parmi ceux qui ont été sélectionnés la semaine précédente. C'est pour ça qu'il faut le faire très vite, dès qu'on peut, donc votre vote compte dès la première semaine. Si jamais vous écoutez ça après, ou si alors vous écoutez ça un peu avant et que vous attendez le 10 février pour pouvoir voter, profitez-en pour aller sur iTunes et mettre 5 étoiles aussi, ça nous aide également comme vote, comme la plupart des podcasts aussi d'ailleurs. Je vous laisse profiter de votre épisode à présent. Bonne écoute. Et bienvenue dans Certains les Machos, l'émission qui s'émancipe des films à la sortie. Enfin, on aimerait bien, mais après on y retourne le mercredi suivant, du coup l'émancipation c'est limite quand même.
Comme dans Birds of Prey.
Voilà. Mais ce n'est pas la voix de Thierry, mais qu'est-ce qui se passe ? Salut Hera.
Salut Thomas, c'est moi qui ai repris les commandes.
Tu t'émancipes de Thierry, ça y est.
Je m'émancipe de tout.
Thierry n'est pas là. Il prend une petite semaine pour repartir voir la famille en Pays Basque. On en parlera deux mots d'ailleurs, le Pays Basque, mais c'est une autre histoire. Cette semaine, on va voir des criminels, des durs, des tatoués. On va voir Harley Quinn qui est tatouée avec les Birds of Prey. Birds of Prey and the Fantabulistic, je ne sais plus trop quoi, fragistique, je ne sais quoi. Histoire d'Harley Quinn.
Du Fragilis et d'Expérité Lotus.
Ouais, c'est sûrement ça. Mais là, c'est Warner, c'est pas Disney. Ensuite, on ira voir les Gentlemen, The Gentlemen de Guy Ritchie. Et également, on va se radoucir un peu avec une histoire plus fantastique, avec La Dernière Vie de Simon. Vous allez voir, c'est tout beau, c'est tout mignon. Et enfin, allez, on va explorer un peu la semaine suivante. On empiètera un peu avec d'autres films. Avec un film surprise, on dit le film ou on les laisse poireauter jusqu'à la fin.
Oh, on va laisser poireauter.
Can I help you?
Why, yes, yes, you can. I'm here to report a terrible crime.
And what terrible crime is that?
This one. Ah, shit, I told this all wrong. Quick history lesson. This all started when the Joker and I broke up. It was completely mutual. And soon enough, I was back on my feet, ready to embrace the fierce goddess within.
Allez, on est dehors. Je ne sais pas si on entend les oiseaux, parce qu'on enregistre dehors. On a un extérieur. Les Birds of Prey. Les oiseaux de proie. Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of an Harley Quinn. Of one Harley Quinn. Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn. Déjà, il y a une couille dans le titre.
Non, à mon avis, ils ont juste vu le film, ils se sont dit « Mais il n'y a pas d'histoire d'émancipation là-dedans. Il y a à peine une histoire, donc on va juste dire histoire. »
Ce qui n'est pas faux.
Bon, pour une fois, saluons les traducteurs français qui vont regarder le film et qui se sont dit « On va pas mentir aux gens.
» Ah, s'ils avaient voulu ne pas mentir aux gens, ils auraient dit « L'histoire d'Harley Quinn et éventuellement les Birds of Prey dans le coin. »
Et les trois caméos dans le fond.
Vous l'avez entendu, notre spécialiste comics, Karl, est avec moi. Salut Karl.
Salut, sur une de mes équipes de super-héros préférées.
Birds of Prey et Harley Quinn, enfin Harley Quinn, on va l'appeler comme ça directement, je pense que c'est mieux. Spin-off de la Suicide Squad. Génial.
Oh, joie.
Oh, joie.
Allégresse.
Suicide Squad à l'époque avait été un film opportuniste, on peut le dire, hein, à l'époque où les bandes de super-héros ça marchait bien et Deadpool, les héros méchants, ça marchait bien. On a voulu faire un mix à l'arrache et ça a donné Suicide Squad. Là, ben, on a une petite dose de hashtag MeToo, hashtag Girl Power par-dessus parce que c'était à la mode et ça donne ce film.
Alors oui, c'est ça, c'est une sorte de nappage Girl Power dont on n'a pas besoin. C'est une équipe de super-héroïnes qui pète des gueules. Pourquoi t'as besoin de dire que les... De toute façon, si je suis un gros miso, je vais pas aller le voir. Pourquoi tu mets un message à la con ? Montre-moi juste des meufs qui pètent des gueules. En soi, c'est pour ça que je lis des comics de super-héros. C'est pour voir des gens péter des gueules. Hein. Comment ils se sentent dans leur sexualité, dans leur vie personnelle. J'en ai rien à foutre. Casser des tronches. Bah, on peut commencer par ça. C'est un film de super-héros. Les scènes d'action, alors, on en a 5-6. Il y en a une ou deux qui peuvent être un peu fun, notamment quand Black Canary se bat. Black Canary lui ont filé des chorés, genre, elle a des plans longs où il y a plusieurs coups qui sont échangés, elle prend des coups aussi pendant les combats. Il y a très peu de, tu sais, sur le côté girl power, il y a très peu de femmes qui prennent des coups, et aussi, tous les mecs qu'elles affrontent, c'est les flics 100% de mecs, les mafieux 100% de mecs, les criminels en prison 100% de mecs.
Oui, et quand on les motive, c'est Men of Gotham, hein, ce sont hommes de Gotham, hein.
Donc elles affronteront que des mecs. Donc t'as Black Canary qui est ce moment un peu sympa, mais Harley Quinn, pour deux scènes de 15 secondes où il se concentre sur sa Corée, ils veulent juste faire des plans iconiques avec Margot Robbie et des ralentis de la mort.
Alors Margot Robbie qu'on voit 80% du film si c'est pas 90%. Margot Robbie donc qui joue, vous l'aurez compris, Harley Quinn, comme dans Suicide Squad. Harley Quinn qui produit aussi le film, hein, y a pas de hasard.
C'est-à-dire Harley Quinn, c'est Margot Robbie.
Oui, pardon.
À quel point ? Ouais, mais c'est au point où dans un film Birds of Prey, quand il y a Black Canary qui débarque, j'ai fait « Ah merde, c'est vrai, j'avais oublié le titre du film !» On se concentre, l'histoire, ça commence sur une très très longue exposition où on présente chacun des personnages, où on fait des sauts dans le temps, en arrière, en avant, mais tout narré par Harley Quinn.
L'histoire du film, quelle est-elle ? Alors, si on suit les résumés, c'est Harley Quinn et les Birds of Prey vont sauver une jeune fille, Cassandra Cain, qui est enlevée par Black Mask.
Ça, c'est les 30 dernières minutes du film.
Voilà, et 20 dernières minutes du film, parce que le reste du temps, c'est surtout ça. En gros, ben, Harley Quinn s'est fait larguer par le Joker, elle l'assume enfin, et donc elle le manifeste au monde. Alors au lieu de le mettre sur Facebook, elle fait péter une usine chimique, bon, parce que voilà.
C'est l'usine chimique où sont nés le Joker et Harley Quinn, tous les deux, et où déjà en Suicide Squad, ils avaient exposé que c'était là que le Joker l'avait transformé en Harley Quinn. Et une différence qu'il y avait dans Suicide Squad, entre sans vouloir systématiquement revenir aux comics, de toute façon, je le dis tout de suite, si tu mets Harley Quinn dans les Birds of Prey, ça ne peut pas être les Birds of Prey que moi j'aime et que j'ai lu. Et sur les 150 numéros, elle est au grand max dans 5 ou 10. Peut-être 10, mais si tu comptes les caméos où elle est dans le coin de la case sans rien dire, quand tout le monde est rassemblé, quoi. Oui, donc dans le premier film, la relation Harley Quinn-Joker, c'était une relation Bonnie and Clyde. C'est un couple qui s'aimait sincèrement. Alors que normalement, elle est dingue de lui, mais pathologiquement amoureuse. Tu vois, il y a un truc maladif dans son attirance pour lui, et lui n'en a strictement rien à carrer. Il l'a déjà jeté depuis la porte d'une voiture pour ralentir Batman, parce qu'il en a rien à foutre. Donc là, ils peuvent pas d'un seul coup dire qu'elle a été maltraitée, qu'elle a souffert. Donc ils essayent très vaguement de le sous-entendre au début, mais en fait ça marche pas. C'est juste une meuf qui a une rupture et qui décide de faire péter des trucs et de péter des gueules.
Oui. Surtout que si c'est la continuité, fait le spin-off de ce qu'on a vu dans Suicide Squad, c'est quand même un Joker, Prince Charmant quand même, qui était présenté précédemment. Donc bah, c'est très curieux.
Donc au lieu d'avoir l'histoire de Harley Quinzel qui se rend compte qu'elle a cette attirance maladive, qui veut lutter contre, qui se rend compte qu'elle a été torturée, tout ça, et qui, en sachant que si elle recroisait le Joker, elle aurait encore ce truc parce que c'est pathologique, elle essaye de reconstruire sa vie, de créer ses propres moyens, ses propres objectifs, ses propres ressources, tout ça, pour être sa propre personne. Mais là, dans ce film, c'est « Ah bah, il m'a lâché, je vais boire des shots avec mes copines et casser la gueule à des grands mecs !» Ouais, combat féministe réduit à son degré zéro. Bien joué, les gars.
Qui revient, qui rajoute une dose d'opportunisme.
Je vois même pas ça comme de l'opportunisme. C'est un nappage. C'est juste pour vendre le truc en disant c'est féministe. Alors que, alors les personnages principaux sont des femmes, ok, identifiés, enfin, avec plus ou moins des personnalités, autant qu'on peut en attendre de ce type de film. Mais non, toute la couche girl power qu'il y a, il n'y a pas de. Mais ça, on montre que René Montoya, qui est un personnage de flic, se fait sucrer sa promotion par les mecs. Peut-être un commentaire sur le plafond de verre. Non, c'est les mecs qui sont méchants. Et c'est en gros, tous les mecs du monde, on est tous dans un club qui a pour but d'exclure les femmes. C'est comme ça que ça marche. Ouais, chers auditrices, si vous le saviez pas, hein, on se réunit tous les jeudis, en fait.
Au bistrot.
En mettant le foot.
Exactement. D'ailleurs, on va en profiter pour parler du staff féminin, puisque ça a été fait jusqu'au bout. Hein. C'est réalisé par une femme, Cathy Yan. C'est son deuxième long métrage. Elle avait fait un long métrage indépendant avant, et elle a été bombardée à la tête du truc directement.
Bah, comme souvent, tu prends un réal qui commence à faire ses preuves, qui est encore malléable, souvent qui a des yeux qui brillent quand on lui ouvre les studios de la Warner. Et après, tu lui dis ah, par contre, tes idées, on s'embrasse un peu, quoi.
C'est ça. Au scénario, c'est Christina Hodson qui avait écrit Bumblebee aussi précédemment, le Transformer. Ouais. Ouais, voilà.
Voilà, un autre spin-off dont on se rappelle tous.
Voilà, voilà, voilà.
Et qu'on avait tous demandé d'ailleurs.
Bien sûr, oui, oui, oui.
Sur Bumblebee, précisément.
Donc voilà, elle est spécialisée en spin-off. Dans les rôles. Alors bon, à côté de Margot Robbie qui produit, donc c'est pour ça qu'on la voit tout le temps. Et en Harley Quinn, on a Mary-Elizabeth Winstead en Huntress. Journée Smollett Bell en Black Canary. Rosie Perez en René Montoya. Ella Jay Basco en Cassandra Cain. Et Ewan McGregor en Black Mask.
Ewan McGregor qui s'éclate, qui n'en a mais rien à branler. Le mec, c'est ce qu'on disait en sortant, il a lu le script, il s'est dit « Oh cool, je peux être un méchant de dessin animé des années 80. Allez, on s'amuse les copains, allez !»
Il en a rien à foutre. Et son... Bon, oui, la cloche sonne, c'est normal, on parle de quelque chose d'assez funeste.
Ouais, Ewan McGregor, franchement, il en a tellement rien à battre, j'ai fini par prendre du plaisir, hein.
Mais il est en vacances complet. Et puis il y a un truc qui est formidable, c'est que le mec s'appelle Black Mask. Donc il est censé porter un masque de tête de mort tout le temps, ou assez souvent. Il le met à la fin pour justifier qu'il part à l'attaque. Mais on s'en fout parce que tout le monde sait que c'est un méchant. Il agresse les gens dans une boîte de nuit. Il force une femme à se dessaper comme ça gratos parce qu'il est énervé. Enfin, je veux dire, il est méchant. Tout le monde sait que c'est le méchant. Enfin, il y a aucun mystère. Donc on lui met son masque. Et bon. 5 minutes, on le lui enlève ensuite parce que quand même on a payé Ewan McGregor pour avoir sa tête.
On a quand même repoussé le tournage d'Obi-Wan Kenobi 3 mois, donc on va pas déconner non plus. On a réussi à l'avoir sans moustache, on va l'utiliser un maximum.
Tout est comme ça, je veux dire, tout est justifié mais assez péniblement.
Oh, des fois c'est même pas justifié, hein. Tu sais la hyène qui se fait exploser et qui revient.
Oui.
Ouais, ben, oui, les chats ont 9 vies, donc les hyènes aussi. What?
C'était le seul moment d'émotion. On aurait cru la mort de Chewbacca dans le dernier Star Wars.
Ouais, en plus, tu sais, sur Black Mask, il y a un moment où je me suis dit, putain, ils sont en train de prendre une direction super couillue et super intéressante. C'est un moment où il a Harley Quinn capturée, ligotée, il lui donne un ordre et il la frappe. Et là, on voit la caméra partir un peu quand elle pense au Joker. Et là, je me suis dit, putain, est-ce qu'elle va tomber amoureuse de Black Mask en mode, elle rejoint le prochain gars taré comme ça, et comme ça, ça permettrait de renouer les liens et de voir les Queens. Et limite, c'est un flashback où en fait elle revoit sa relation avec le Joker et elle le voit sous un nouveau jour. Est-ce qu'elle aura à combattre ça? Est-ce qu'elle va tomber amoureuse du gars qui veut la tuer? Ça serait super. Non. Juste, non, y a pas de juste. Enfin, on te montre que ça pourrait arriver comme ça avec la mise en scène, mais non.
Le seul truc psychologique qu'on a dans le film, c'est Harley Quinn qui te récite les poncifs de psycho. Ah oui, pour bien souligner qu'elle a fait psycho avant, quoi.
Ah oui, et puis des trucs, franchement, j'aurais pu répondre correct dans un QCM. Hein. Ah là là, tes parents sont morts devant toi quand tu étais enfant? C'est un trauma d'enfance. Waouh, heureusement que t'as un doctorat. Hein. Elle le rappelle à un moment.
Tout le temps, trois fois.
J'ai pas compté le nombre de fois doctorat, j'ai aussi arrêté de compter le nombre de blagues coups de pied dans les couilles parce qu'on peut en parler de l'humour.
Ah bah oui.
Voilà, l'humour... bon, en soi, on prouve que les femmes peuvent faire des blagues aussi beaufs que les mecs. Sauf que là, on est plus beaufs que Fast and Furious, les gens. Les derniers, hein, pas les premiers, faut pas déconner.
Mais alors, ce qui est terrible, c'est qu'il y a pas mal de vannes qu'on repère. On se dit, ah là, c'était une vanne, mais il y a un problème de rythme. On se dit que sur une case, ça pourrait passer comme ça, vite fait. Et en fait, avec la longueur du plan et la mise en scène, en fait, on se dit, mais en fait, elle tombe à plat, elle est au milieu de rien. Elle pourrait popper comme ça, faire un petit. Mais il manque un rythme, il manque un petit quelque chose pour que les vannes soient à peu près efficaces.
C'est ce qu'on disait en sortant du film, Harley Quinn, j'ai pas trop lu ses séries solo, mais ce que j'ai lu était bon, mais elle marche surtout super bien en personnage de fond, pendant que tous les autres discutent de trucs super importants, elle est sur le côté de la case avec juste une petite bulle où elle a sa vanne avec son action de son côté. Ça marche. Là, elle est le personnage central, mais elle se comporte en permanence comme un personnage qui fait des vannes dans le fond.
Et seulement le premier plan.
voilà, elle est au premier plan, et puis même, les histoires autour sont scotchées, Huntress, chaque fois qu'elle débarque. Alors, j'adore Marie-Elisabeth Winstead, mais chaque fois qu'elle débarque, je fais « Oh, j'adore, que fous-tu là ?»
Alors, c'est bien, parce que moi, je me suis identifié à elle, parce qu'à chaque fois, tu te poses la question « Qu'est-ce que tu fous là ?» Mais elle se la pose, vraiment. Elle dit « Mais attendez, mais qu'est-ce que je fais là ?» Elle regarde autour, elle dit eh, « Ils sont quand même bizarres, ces gens, et puis c'est quand même mal écrit, et c'est ça ma ligne. » Ah ouais, quand même, elle fait la gueule pendant tout le long, et nous aussi, je me suis pas mal identifié à elle. Hein.
Ouais, limite, tu sais, ils ont pris les prises de l'échauffement. Genre, quand ils sont pas encore dans le perso et qu'ils font juste, qu'ils récitent juste le script et qu'ils se disent « Oh putain, allez, 20 millions, vas-y, t'es bien payé. »
Pense au pognon.
T'auras un Oscar l'année prochaine, c'est pas grave.
Ah, c'est sûr, c'est pas avec ça, ouais. Aïe.
Bon, faut vraiment que je relise les messages que m'envoie mon agent. Et il y a, ouais, ces personnages donc deviennent très secondaires alors que leur équipe est sur la fille, enfin c'est le titre du film quoi, Birds of Prey. Vraiment, elles sont périphériques à l'histoire de Harley Quinn.
Mais dans les scènes de fin, on les voit deux minutes, elles viennent filer un coup de main à Harley Quinn, comme ça de temps en temps, donc un petit truc. Il y a un petit pouvoir qui sort, il y a Black Canary qui sort de nulle part, un pouvoir, on sait pas trop. Alors au début, elle casse un verre en chantant, mais comme toutes les cantatrices dans les BD, donc on se pose pas plus de questions que ça. Et à la fin, elle te sort un méga cri de la mort, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'où ça sort quoi?
Oui, c'est très rapidement évoqué avec René Montoya à un moment qui lui dit vous avez le même pouvoir que votre mère, utilisez-le pour le bien. Oui, bon, tu dis ultimement son pouvoir c'est en gros elle crie et ça fait un cri supersonique qui peut renverser un tank ou détruire un immeuble quoi, si elle crie assez fort. Mais tu sais, ce moment qui pourrait être un peu badass où elle envoie 20 linguer une cinquantaine de mecs et leur voiture, bon, qui est déjà un peu ruiné par le fait que Harley Quinn s'en sert pour avoir de l'élan en roller. Elle s'évanouit juste après, donc vraiment dans ma tête ça fait mais pauvre merde.
Oh.
Black Canary c'est censé être une super héroïne super badass. Alors je comprends bien que ça ne peut pas être mes Birds of Prey que j'aime, mais Black Canary en combat elle est censée pouvoir mettre une tatane à Batman sans son pouvoir. Et elle a son pouvoir, elle est super badass, elle a fondé la Justice League, donc la voir s'évanouir en utilisant son pouvoir de base c'est assez minable. Et d'ailleurs, bon, pour s'excuser de ne pas pouvoir faire un film Birds of Prey, le film bombarde de références, pas à l'univers d'ici, mais à l'univers de Batman, uniquement parce que... Alors on passe par tous les quartiers de Gotham, par Amusement Miles, par le Pioneer Spears, on passe partout. On a plein de persos qui pop, donc on a René Montoya qui est une détective du CPD, on a Cassandra Cain qui passe de fille de super-vilain entraînée toute sa vie à être une tueuse au point où son père ne lui a jamais parlé ou montré d'affection, donc elle ne peut communiquer que par la violence. Oh, au passage, ça aurait été un bon film d'émancipation, ça, par exemple. Bah, ça devient une pickpocket qui vole un diamant pour... qui vole le MacGuffin. À un moment, Harley Quinn brise tellement quatrième mur, elle arrête le film au moment où la gamine va avaler le diamant pour dire « Ça, vous voyez, un scénario s'appelle... » Et j'ai cru qu'ils allaient dire MacGuffin, quoi. Oui. Ils ont osé deux références à Suicide Squad, ils ont osé dire que le film existait.
Ils ont recyclé 2-3 plans aussi.
Ouais, pas ceux où on voit Jared Leto, parce que faut pas déconner. On voit... Tu sais, genre, pour montrer qu'elle se fait jarter, on voit un gars la jeter d'un bar, fermer la porte, et elle frappe à la vitre. Et tu dis, mais ça veut dire qu'il y a le Joker dedans. Tu vas pas mettre un plan du Joker? Genre, vous voulez pas de Jared Leto à ce point? Bon, je comprends, vous l'avez eu 3 semaines et vous envoyez des souris mortes et des capotes usagées. Moi non plus, je voudrais pas retravailler avec ce gars.
Non, si, à un moment, il y a un mec de dos avec les cheveux verts, si. Mais vite fait, une demi-seconde.
En soi, ça pourrait être Billy Joe Armstrong, le chanteur de Green Day. Hein.
C'est possible. C'est peut-être lui.
Si ça se trouve, avec tous les caméos.
Bon, il paraît que si ça marche, ça pourrait faire une trilogie, Harley Quinn. Avec les Gotham Sirens derrière.
Ouais, donc tu m'as parlé de ça avant le film. Donc les Gotham Sirens, c'est Harley Quinn, Poison Ivy et Catwoman. Si, ils respectent le roster, mais bon, là, a priori, il n'y a pas de raison de ne pas le respecter. Et donc tu m'as dit, le troisième film, ça serait les Birds of Prey contre les Gotham Sirens, quoi.
Alors, c'est une rumeur, et c'est ce que j'ai vu sur IMDB vite fait, avant en regardant. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Je prie pour que non.
Ah, de toute façon, on sait bien... Ils sont pas esclaves du scénario, ils sont esclaves du box-office. Donc bah, si ce film est un four, il n'y aura pas de suite. Si c'est un énorme succès, ils vont probablement essayer de relancer l'univers DC depuis ce qu'on appelle les street-level heroes, c'est plutôt que Superman, Batman. Parce que bah, les gens ne sont pas prêts pour le côté plus cosmique de DC, je pense. Les dieux, le mec qui peut voler avec son anneau vert, avec tout un corps de policiers de l'espace. Je pense que les gens s'identifient plus au côté street level de DC.
Bref, vous l'aurez compris, si vous voulez voir un film féministe avec Margot Robbie, allez plutôt voir Scandale. Merci Karl.
Merci Thomas.
There once was a young and foolish dragon who came to ask a wise and cunning lion about acquiring his territory. Now the lion, he wasn't interested, so he told the little dragon to fight. But the dragon, he persisted.
Oh, could he?
He started a war. So the lion took the little dragon for a walk and put 5 bullets in his little dragon head.
It's warming up now, isn't it?
There's a message in there. Maybe you can explain it to me.
Guy Ritchie, The Gentleman, avec Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam, Henry Golding, Colin Farrell, toute une clique de bonhommes. Et avec moi, je n'ai plus Karl, parce qu'on parle plus comics, donc il s'est barré, voilà. Mais j'ai Yassa qui m'accompagne, salut Yassa.
Salut Thomas.
On sort de film de Guy Ritchie, Guy Ritchie qui revient au film de gangster, 20 ans après Snatch et Arnaque, Crime et Botanique. Et Rock'n'Rolla, c'est un peu plus tôt, Rock'n'Rolla, effectivement. Ouais, c'est plus récent, c'était il y a 10 ans, il y a 12 ans, même, Rock'n'Rolla, effectivement. Et on le retrouve un peu ce qu'il a rendu célèbre, un peu ce qu'il a fait connaître, qu'on aimait bien chez lui, hein, avant qu'il parte sur autre chose, sur du Roi Arthur, sur du Aladdin, voilà, tout ça. Est-ce que c'est réussi ?
Disons que c'était peut-être mes attentes personnelles, mais j'attendais de voir un petit peu plus d'expérience de ce qu'il a glané un petit peu en faisant ailleurs. Mais en fait, j'ai juste retrouvé un bon film de gangster des années 2000. Voilà. C'est-à-dire que, bon, alors, il y a l'humour à la British qui est absolument bidonnant, très souvent. Parfois, ils se permettent des blagues, tu dis non, s'il te... D'ailleurs, je t'ai entendu réagir, Thomas, pas mal de fois.
Parce que c'est très limite à certains moments.
Tout à fait. Mais bon, moi, je suis cliente de ce genre d'humour, donc je ris de...
Non, je disais limite, alors... Il y a l'humour, ok, je disais limite sur d'autres trucs que l'humour, au niveau raciste, au niveau... ils sont pas très gentlemen, ces messieurs, hein.
Oui, mais disons que ce que tu pointes du doigt, c'est dit avec tellement de flegme, le flegme à la British, que pour moi, c'est passé comme une lettre à la poste, en fait. Ça m'a pas choqué du tout.
Est-ce que tu parles du moment où il traite le espèce de salle noire ou con de noir, un truc comme ça? Ils sont dans une salle de sport, dans une salle de boxe, donc déjà, oui, c'est pas l'endroit où on prend des gants pour parler, justement. Oh, jeu de mots, oh, oh, oh. C'est pas fait exprès, pardon. Et, non, parce qu'après, on va dire, ah, Thomas, il fait des genoux tout le temps. Non, bref. Et donc, en fait, le mec, il dit, ouais, ben, écoute, t'es noir, c'est un fait, t'es con, c'est un fait, donc t'es un con de noir, voilà, quoi. Et effectivement, il y a une leçon sur le racisme et tout, il s'expliquait par Colin Farrell, qui est bien blanc et qui va t'expliquer le racisme, c'est quoi. Bon.
Mais disons que, je sais pas pourquoi, mais cette fois-ci, je l'ai pas perçu comme étant un discours moralisateur. C'était, tu vois, c'est pas, je sais pas, alors moi, le blanc qui va venir t'expliquer...
Je suis complètement d'accord, d'autant que dans ce cas-là, effectivement, on est des mecs qui sont entre eux, qui sont des potes, qui font des vidéos ensemble. Bon, c'est un groupe de potes, ils sont élevés, c'est presque une famille de potes, entre guillemets. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est juste que, quoi, 10 minutes après, on a une blague sur un nom de chinois qui s'appelle Fohok. Sérieusement, Fohok. J'avais pas entendu ça depuis Fuck You et Fuck Me dans Ghost in Powers, quoi. Mais les mecs, mais sérieux, mais c'est quoi ça? Mais on a, en 2020, on a le droit de faire ça, sérieux?
Mais je t'ai entendu te marrer.
J'ai dit oui en disant c'est pas possible. Mais je me suis dit c'est pas possible, en 2020, on a plus le droit de faire ça, c'est pas possible. Enfin,
Mais je sais pas, mais franchement, je vais te dire, je pense que l'écriture et le genre de Guy Ritchie se prête à ça. Surplombé, enfin, avec une couche comme ça d'humour british, je sais pas, mais ça, moi pour moi ça a marché, quoi. J'étais je sais que c'est des blagues de merde, c'est des jeux de mots pourris, n'empêche que je suis cliente. Si Thierry était là, dirait y a ça, rit à tout. C'est vrai, je ris à pas mal de choses la plupart du temps, mais c'est quelque chose qui m'a, je l'ai bien intégré, ça a participé justement à mon intéressement au récit, parce qu'il faut dire déjà que, je sais pas pour toi, mais moi j'ai eu un petit peu de mal à rentrer au début, c'était assez lent.
Moi c'est ça, moi je trouve que Guy Ritchie il est un peu plus plan-plan que dans les épisodes précédents, tellement que pour se poser, pour rentrer dans l'histoire, parce que on a l'habitude de ces histoires complexes avec des gangsters à caractère qui ont chacun leur personnalité, leur trait spécial, leur atout, leur faiblesse, leur coup spécial et l'élément de surprise, l'élément imprévu et les scénarios qui vont se recroiser, les plans de chacun qui vont se mélanger, s'entrechoquer. On a l'habitude. Ici, c'est plus plan-plan, l'histoire vite fait. On a Matthew McConaughey qui joue Mickey Pearson, qui est en gros le roi du cannabis sur Londres. En gros, qui est un Américain qui est le roi du cannabis sur Londres et qui veut revendre son affaire. Seulement, voilà, il va vendre le...
Sa retraite, c'est brut. Puis, il y a des sales coups qui commencent à venir un petit peu de droite à gauche. Il y a des gens qui veulent avoir une mainmise sur son empire, quoi.
Voilà, donc ça attire les convoitises, il y a des coups fourrés, donc ça peut faire capoter la vente. Et on a Hugh Grant qui joue un détective privé, un enquêteur, un paparazzi.
Voilà, qui bosse pour le Sun ou je sais plus.
Un tabloïd dégueulasse, ouais, voilà. Et qui vient faire chanter justement, bon alors, Charles Hunnam qui est son... Charlie Hunnam. Et il vient donc voir Charlie Hunnam pour le faire chanter en lui exposant ce qu'il sait sur l'histoire. Et donc en gros, la narration, et donc le dispositif de narration, c'est justement ce paparazzi, ce maître chanteur qui vient raconter un peu l'affaire, ce qui permet de sauter d'une scène intéressante à une autre, entre guillemets. Mais du coup, c'est entrecoupé par des mecs qui vont bouffer un steak sur la terrasse.
Ça m'a donné faim. Hein. c'est vrai que le passage justement de la narration... par le personnage de Hugh Grant, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de films récemment, j'ai l'impression. Enfin, tu vois, on a un personnage qui se pose, qui parle, etc. Sauf que là, par exemple, ça m'a pas dérangé plus que ça. Je sais plus le film qu'on avait vu la dernière fois. J'avais dit que c'était... Ben oui, c'était Le Traducteur, voilà.
J'ai pensé au Traducteur parce qu'effectivement, il y avait une enquête, un film, qui sait qui fait capoter l'affaire, qui a commencé, qui a tiré le premier, qui a manipulé qui. Le fameux Whodunit.
Ouais, voilà. Et justement, dans ce cas-là, les coupures ne me gênaient pas. C'est-à-dire que après avoir pris le temps de bien apprécier les personnages, d'être rentré dans l'histoire, j'avais plaisir à retrouver les interactions entre Charlie Hunnam et Hugh Grant et de retourner à l'histoire, ça me dérangeait absolument pas. D'ailleurs, faut dire aussi que c'est fait d'une manière assez fluide. Tu vois, c'est-à-dire que il y a pas de grosses incohérences, de choses qui te sautent à la gueule et tu te dis ah putain merde.
Il y a un truc qui est un peu, entre guillemets, gênant, justement. On a Hugh Grant qui est un peu excessif dans sa narration. C'est-à-dire que quand il est en train de montrer son scénario, sa vision du scénario, donc les infos qu'il a, donc il scénarise un peu l'histoire et donc il la rajoute un peu et il fait surtout du personnage de Henry Golding, Dry Eye, qui est le jeune dragon, la jeune pousse, la jeune génération de la mafia chinoise qui vient titiller tout ça, qui veut chambouler le truc. Il en fait un personnage un peu plus fou, un peu plus excentrique et un peu plus... Enfin, avec moins de limites finalement que ce qui serait. Et du coup, bon, au début c'est rigolo quand il le fait délirer, mais à la fin ça devient glauque quand il arrive. On spoil ou pas, il y a une scène de viol quand même dans le film qui est en trop, et d'autant que la femme en question n'a que deux scènes, voilà. Dont celle-là, ce qui donne une image assez affligeante. La seule femme du casting là, alors c'est Michelle Dockery qui joue la femme justement de Pearson, de Matthew McConaughey, qui au début fait en gros c'est un peu la reine du crime, c'est une businesswoman, mais qui se retrouve justement à reléguer en 30 secondes en demoiselle en détresse à secourir, et même qui se fait complètement faible. Et, ouais.
Mais justement, c'est que je pensais vraiment qu'elle aurait un peu plus d'importance, parce qu'au début, lorsque le personnage de Matthew McConaughey reçoit l'offre, enfin rencontre son futur acheteur, qui est avec sa femme, et donc Matthew qui est avec sa femme aussi, et donc il y a un moment, l'acheteur s'en va et le personnage de Matthew lui demande son avis, quoi. Lui demande comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que tu en penses, etc. Du coup, je pensais qu'elle serait beaucoup plus impliquée dans l'histoire que ça, alors qu'en fait elle a son business, et puis son mari veut prendre sa retraite et lui dit non mais tu vas me rester dans les pattes maintenant que tu vas être en retraite, putain, tu vois. Et lui dit non mais toutes les femmes des autres gangsters, elles leur disent de quitter, toi tu veux que je continue à faire, enfin tu vois, c'est une petite scène de ménage, mais voilà quoi, c'est très plan-plan finalement à la fin pour elle, quoi. Et à part la grande scène de viol, enfin grande scène, voilà.
Ouais, puis elle est sexualisée aussi parce qu'elle a une robe très moulante avec la fermeture éclair qui lui descend jusque très très bas, qui souligne les suggestions. Avec son mari, visiblement, les seules situations, en fait, elle l'engueule un peu, mais ils vont baiser juste derrière. C'est sous-entendu très fortement. Finalement, c'est sa femme, elle lui donne des conseils, elle baise, et c'est triste, mais c'est un peu la seule image que ça renvoie. C'est pas terrible, quoi. Et d'autant que quand on sait qui c'est qui produit ce film, et c'est rappelé en plus à la fin du film, parce que c'est un élément du film, c'est produit par la Miramax. Voilà. Hein, la Weinstein Company, hein, c'est franchement, c'est pas très 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 finaux, ce genre de rêve.
Franchement, pour le dénouement qu'il y a eu, c'est-à-dire que le mec pète un câble et dit ouais, t'as touché à ma femme, je pense qu'ils auraient carrément pu enlever la femme du scénario et garder The Gentleman. Il avait pas besoin d'être marié ou d'avoir voilà, il a son empire, ça lui suffit amplement. Et il faut en plus qu'il ait un love interest. Et
non, c'est la faiblesse du héros, c'est sa femme, tu comprends.
C'est une autre faiblesse, faut pas déconner non plus. On est des humains, les faiblesses, on a que ça, hein, ça va. Les faiblesses, on a que ça. Ça aurait pu être tellement d'autres choses. Ça veut rien dire. C'est juste qu'en fait, pour l'utilisation qui en est faite, franchement, on aurait pu largement s'en passer et rester et coller carrément complètement au titre, c'est-à-dire The Gentleman. Et voilà, c'est un film avec des bollocks, quoi. C'est tout.
Voilà. Bon. Alors, Gentleman, c'était effectivement, vous l'avez compris, c'était absolument pas par rapport à la jeune féminine qui est complètement laissée de côté. Mais c'est pas pour les bonnes manières, c'est juste que ce sont des gangsters qui veulent s'embourgeoiser un peu. Enfin, qui sont embourgeoisés, qui sont gentrifiés même. Hein, le terme est lancé. Et qui veulent se ranger, et voilà. Mais bon, c'est pas pour autant qu'ils ont des bonnes manières. Et moi, je sens aussi que Guy Ritchie, il est un peu comme ces mecs-là. C'est-à-dire que... Mais le petit côté un peu sale qu'on avait justement dans les films que je citais, dans Snatch, dans Arnaque, Crime et Botanique. On était toujours dans la marijuana, d'ailleurs, Arnaque, Crime et Botanique. On était toujours là. Mais je trouve que c'est moins sale. C'est plus propre. C'est plus élégant. C'est plus en arrière-retrait. Et
bonifié avec le temps, quoi.
Bonifié, je sais pas. Moi, je trouve que c'est plus en pantoufle, c'est moins énervé, j'ai l'impression. Mais pourquoi pas? Parce que moi, dans Roi Arthur, les montages surexcités, moi, ça m'avait rendu malade.
Idem. On n'en parle pas.
Non, on préfère oublier. Donc, bref, à part quelques éléments assez dérangeants, je trouve que le film se tient bien, mais c'est dommage d'avoir ça, quoi.
Moi, je vais pointer un truc qui m'a vraiment fait chier. C'est l'accent moitié cockney, moitié irlandais de Colin Farrell qui, limite, m'a presque sorti du film. À chaque fois qu'il parle, je suis là, mais pourquoi tu parles comme ça? Fais ton accent irlandais, je crois. Fais ton accent irlandais ou fais pas d'accent tout court. Parce que le cockney, en plus, le gars, il gère une salle de boxe et le gars, il est gentil, c'est pas un gangster. Mais en plus, il te fait l'accent cockney. Et moi, je pense tout de suite à Jason Statham, tu vois. Tu vois, je pense à Statham qui fait son accent cockney. Et moi, je suis là, mais ferme ta gueule, en fait. Parle pas. C'est mieux si tu parles pas. Fais tes trucs, mais ne dis rien. Tu
vois. Avec le survêt en motif à carreaux.
C'est des survêtes un petit peu rehaussées, quoi.
Même les serviettes sont élégantes. Voilà. C'est ça, c'est la banlieue londonienne. C'est ça, c'est beau. Ouais,
c'est ça. Mais sinon, globalement, franchement, je me suis bien amusée devant ce film. Hein. Je le recommande. Si vous avez envie d'un peu d'action et d'humour british, c'est le bon film à aller voir.
Oui, bon, je sais pas, oui. Bon, bref. En même temps, moi, je sors d'Harley Quinn aussi. Oui. Et donc... Non, mais c'est ça, après, entre celui qui fait hey, on est féministe et tout. Non, les filles, non. Enfin, Et l'autre qui fait non, mais nous, on en a rien à branler. Oui, bon, d'accord. Entre les deux, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Voilà. Bon. J'espère que le prochain sera meilleur et qu'on n'aura pas à se poser la question, surtout.
Ce que je vais vous montrer, je n'ai jamais montré à personne.
Vous rentrez pour manger, d'accord?
Prêt? Partez!
Simon! On peut pas aller par là!
Maman!
Simon! Il est où, Simon?
Quand Simon a disparu, est-ce qu'au fond de toi, tu t'es pas dit qu'il était peut-être juste parti?
Pourquoi tu me demandes ça?
Fini les films de gangsters, les bandits, les mauvais garçons, les criminels, y en a marre. Quoique... On change de genre, on part dans le fantastique avec La dernière vie de Simon. Je suis toujours avec Yassa.
Salut Thomas.
La dernière vie de Simon de Léo Carman, premier long métrage avec un scénario de Sabrina Bécarine et Marie-Sophie Chambon et Léo Carman. L'histoire de Simon, 8 ans, orphelin, qui a un pouvoir. Il peut prendre l'apparence et même le corps, les capacités physiques et propriétés physiques des personnes qu'il touche. Voilà. Et il peut changer d'apparence comme ça et de morphologie comme il le souhaite. Il va faire la rencontre de la famille Durand et notamment de la jeune Madeleine et du jeune Thomas qui ont son âge. Et il va se nouer d'amitié avec eux. Voilà. Il va faire, même presque faire partie de la famille jusqu'au jour où, tragique, est-ce qu'on raconte jusque-là ?
Je pense que oui, parce que si on veut parler du reste du film, ça va être dur de le faire sans, quoi.
Bon, alors on s'en doute un peu, c'est le genre de twist dont on se doute un peu quand on sait qu'il y a un gamin qui peut changer d'apparence.
Là, pour le coup, c'est pas un twist de fin, c'est vraiment un twist qui arrive presque... Enfin...
Il n'y a pas de mystère sur la question. Il joue en forêt avec le petit Thomas, avec le garçon de la famille. Lui, il tombe dans un trou, le garçon tombe dans un trou, et donc pour... Et dans la panique finalement, il prend l'apparence du petit et il se fait passer pour lui pour le reste de sa vie jusqu'au jour de ses 20 ans. Et là, les choses se compliquent, exactement.
Alors j'ai envie de dire que le postulat de départ est très bon. On montre les pouvoirs de Simon assez efficacement, je trouve. C'est bien fait. C'est-à-dire que je pense que je peux raconter la scène de départ. On voit un adulte qui arrive dans une fête foraine, qui demande de la barbe à papa. Puis on le voit grimper un portail, puis rentrer dans un orphelinat. Et puis il a une lampe torche. Il rentre dans sa chambre, c'est tout noir, on ne voit que la lampe torche. Et puis la lampe torche en fait descend, reptice. Et là on comprend en fait qu'il a changé de corps, quoi. Et je trouve que c'est une manière de montrer qui est très efficace, qu'on comprend tout de suite les pouvoirs, etc. Il n'y a pas besoin d'énormes explications. C'est une suspension de l'incrédulité. On sait tout de suite dans quoi on est plongé. Sauf que, pour ma part, ça devient assez vite dramatique. ouais. C'est-à-dire que je m'attendais comme un petit peu ce qu'il y avait eu dans Le Secret de Terabithia. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'était un film sur des enfants avec de l'imagination, etc. C'était un truc assez fantastique. Et du coup, c'est quelque chose justement qui m'a un peu chamboulée. Et en même temps, je me dis que ça aurait pu partir que dans deux directions. Soit on jouait sur la carte du fantastique à fond, et complètement démesuré, et qu'il lui arrivait plein d'aventures, etc. Soit, comme là, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, et puis on est tout de suite dans un ton beaucoup plus grave.
Là, ici, on est plus sur la question de l'identité, assumer son identité. Parce que là, on a un jeune garçon de 8 ans, et on va se plonger ensuite aux alentours de la vingtaine. Il n'a pas encore 20 ans, mais presque. Donc ce sont des périodes où justement on a du mal à assumer son identité, à assumer qui on est, donc c'est important. En plus, il va bosser symbolique. La famille en question, le père est miroitier. Voilà, ça le miroir en cinoche. Il y a une valise de symboles, c'est pas la peine de les sortir. Oui, alors un scénario, moi je trouve que le scénario coule bien. Il n'y a pas des grosses surprises, il n'y a pas de l'inattendu, mais je trouve que ça se tient bien, c'est bien maintenu. C'est pour ça que j'ai cité les scénaristes pour une fois et pas les acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs, vous imaginez le gamin qui change de forme à chaque fois. Donc il est joué par une dizaine de personnes, je crois, en tout. Oui, du coup, le scénar, bon, pas de gros twist. Effectivement, une fois qu'on connaît le scénar, c'est attendu, mais ça se tient. C'est-à-dire qu'il a des pouvoirs, il y a des règles. Et c'est vrai que souvent, dans les trucs fantastiques, quand il y a un pouvoir, on pose une règle et puis on la respecte pas derrière.
C'est un petit peu ce qu'on reproche au Marvel, au Star Wars, au dernier Star Wars, etc., qui sortent un petit peu des... Enfin, qui ne respectent pas la cohérence interne du récit. C'est ça le truc. Alors que là, en fait, les règles sont posées dès le départ. Il y a une cohérence qui se déroule au fur et à mesure. Ok, le scénario est prévisible. Je pense qu'on a fait des prédictions, toi et moi, qui...
c'est pas tant dans les prédictions, mais ce que j'aime, c'est que les réactions sont logiques.
Oui.
Petit aparté sur Harley Quinn précédemment... Ils font des trucs très très cons dans Harley Quinn. Tu vois, par exemple, courir dans un couloir complètement à découvert face à des gens. Ou une flic qui balance à quelqu'un son indic. Parce que c'est une des Birds of Prey, elle le sait pas encore, hein, mais elle va être copine plus tard dans le film. Donc c'est bon, elles peuvent balancer que le mec qui bossait avant était un indic et elle voudrait bien qu'elle soit un indic aussi. c'est des trucs qui sont qui sortent complètement, qui te font t'arracher les cheveux. Alors que là, il y a pas ça. Justement, on a un scénario qui se tient, on a une bonne tenue et c'est ça que je trouvais très agréable. Toutes les réactions sont logiques, même sur la fin, même les situations qui peuvent être un peu glauques parce que c'est quand même un gamin qui est amoureux d'une petite fille qui va prendre l'apparence de son frère. Donc déjà, niveau psycho, on est bien là, on est pas mal là, tu vois. Voilà. Je sais pas où ça s'engueule. Ah ouais, il y a des gamins qui passent dans le fond, c'est pour ça. C'est des gamins, on parle de gamins, ils arrivent. Donc, non, même les situations glauques, même la situation de fin, la situation de crise, elle est logique aussi. Même si on se dit comment ça va finir, en fait, non, c'est une fin logique. Et ça se pose bien. Et ça, je suis assez content d'un scénario comme ça qui, où j'ai rien à redire du scénario. Et je suis content de ça, rien que de ça. Rien que ça.
C'est vrai que ça manque. Enfin, moi, je parle des films que j'ai vus là récemment. Par exemple, Bad Boys, ça part en cacahuète. Et ça peut partir en cacahuète intelligemment, avec un minimum de cohésion et de cohérence dans le récit, alors que pas du tout dans Bad Boys, c'est très perché, quoi. Là, par contre, c'est la définition même du fantastique, c'est-à-dire une intrusion du surnaturel dans le réel, tu vois. Mais justement, on s'en accommode. Tu vois, on suspend l'incrédulité, que ce soit les personnages, c'est-à-dire que, d'accord, ils sont étonnés au début, et puis ensuite, ils commencent à s'habituer à ce qu'ils ont devant eux, tu vois, ils commencent à agir en fonction de ce qui leur est présenté. Et puis, en tant que spectateur aussi, c'est-à-dire que t'es là, tu te dis, bon, d'accord, le gosse, il a un pouvoir, et puis il agit en conséquence, quoi.
Oui, dans les références aussi, c'est une structure qui m'a rappelé aussi dans le style de scénario, mais qui se tient mieux, pour le coup. On parlait de réaction logique, fait plus compréhensible en tout cas. Ça m'a fait penser à la structure de 3 jours une vie, je sais pas si t'avais vu, où, alors ça se passe pas en Bretagne cette fois-ci, ça se passe dans les Flandres je crois, et c'est pareil, ce sont deux gamins enfants, y en a un qui tombe dans la forêt, enfin il y en a un qui meurt dans la forêt en se cognant, et l'autre planque le corps et va planquer, et du coup va pas dire que l'autre est mort, et il va garder ça en lui, il va avoir la culpabilité toutes ces années. Bon, sauf que là il n'y a pas le fantastique pour le sauver. Et on a eu la même structure, première moitié enfant, deuxième moitié adulte, avec justement le poids du passé qui revient. Donc, si vous aimez le style d'histoire, ça peut peut-être vous intéresser.
Paradoxalement, je pense que la culpabilité, je ne l'ai pas tellement sentie. On sent qu'elle est là parce que j'ai l'impression qu'il fallait qu'elle soit là un petit peu. Mais je ne l'ai pas réellement sentie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il va prendre l'apparence de Simon. On va prendre son apparence en tant qu'adulte. Et en fait, j'ai l'impression qu'il se laisse un petit peu glisser comme ça. Enfin, il n'a pas un total contrôle sur les événements. Du coup, j'ai l'impression que c'est un petit, il se dédouane en fait de tout ce qui s'est passé. C'est la mort de Thomas n'est qu'un accident, on est d'accord. Mais il faut savoir que c'est un accident qui a été initié par le changement de physique de Simon.
Ah oui, comme il peut changer de morphologie, il prend la morphologie de la brute de service, donc qui physiquement est plus imposant et donc court plus vite pour gagner la course.
On pourrait s'imaginer justement qu'il se sentirait extrêmement coupable justement de faire face à ses parents tous les jours, de travailler avec des miroirs tous les jours et de se dire putain c'est pas ma gueule quoi, c'est pas moi. Et du coup il manque un petit peu ce peut-être même pas de la culpabilité mais peut-être un dédoublement de personnalité ou de se dire un début de schizophrénie quoi.
C'est vrai qu'on aurait pu partir sur de la schizo, il y en a pas tant que ça. C'est vrai qu'il fait pas d'erreur du style il mange des frites alors qu'il est allergique ou ce genre de truc. Il prend la forme, il prend la morphologie, le frère est allergique aux frites, du coup pendant toute son adolescence il ne peut pas manger de frites. Si ça, c'est pas de l'abnégation, je sais pas ce que c'est.
C'est pas juste un changement extérieur, c'est aussi un changement interne. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il duplique carrément l'ADN de la personne qui l'a touché, quoi.
Il y a juste un petit bémol sur Simon, la dernière vie de Simon, c'est la musique.
Oh, oui,
c'était sirupeux et surappuyé. Alors, je veux bien que c'est du fantastique, c'est familial, c'est tout gentil, mais là, il y avait trop de sucre, en fait. Le sirop d'érable noyait les pancakes, quoi.
Je me demande si c'est pas un petit peu pour contrebalancer le ton dramatique du film. Déjà, il n'y a aucun thème qui m'a particulièrement marqué. Il n'y avait rien qui sort de l'ordinaire. Et puis, c'est plan-plan. Oh, mon Dieu! Franchement, j'avoue que j'aurais vu le film sans aucune musique, juste le vent des collines de Bretagne. Ça m'aurait suffi, hein.
Je crois que j'aurais presque préféré aussi. Bah, une musique peut-être plus discrète, ça aurait été mieux. Oui, ok, très bien. C'est l'heure d'arrêter et de passer à la rubrique suivante. Allez, go. Mais sinon, on a bien aimé le film. Bah, non, ça, on va faire ça.
Oui. Allez le voir.
Est-ce qu'il y a d'autres films, est-ce qu'il y a d'autres recos, tant qu'on est sur on est sur la fin de semaine ou autre, est-ce qu'il y aurait des recos, des choses que tu as vues dans la semaine ou pas, des séries, films ou quoi? Série, ouais, il y a une série que tu recommanderais en ce moment?
Ouais, c'est Sex Education de Netflix. J'étais pas trop enthousiaste pour la voir au début, et puis je dois dire que j'ai bien accroché, l'humour est tordant, les difficultés sexuelles des adolescents sont abordées de manière assez constructive. C'est pas in your face, tenez, voilà, donc c'est comme ça et c'est comme ça, etc. C'est pas moralisateur, c'est très libéré, c'est-à-dire qu'il y a vraiment aucun tabou. Franchement, c'est une bouffée d'air frais, c'est-à-dire de parler de choses comme ça. Et je pense que ça peut inciter justement les adolescents qui regardent cette série à avoir moins de gêne à en parler. Et à la fois, ça peut montrer aux adultes justement que les adolescents sont plus si adolescents que ça et qu'ils commencent à avoir des problèmes d'adultes et qu'ils se posent des questions. Et qu'il faut justement essayer de leur en parler, etc. Tu vois, je pense que c'est une série qui peut ouvrir le dialogue, quoi. Voilà.
Alors moi sur la plateforme rouge là qui fait toudoum, j'ai essayé de voir Uncut James, bref, un truc assez ignoble et au bout de 10 minutes j'ai arrêté. Donc je vais retenter de le voir dans la semaine et pour en parler avec Marwan qui lui a adoré. Donc on en parlera la semaine prochaine quand Marwan sera là, ce sera mieux. Mais sinon, non, moi cette semaine, c'est pas trop une reco, c'est plutôt un coup de gueule. Alors, sur un film que dans l'ensemble, j'aimais plutôt pas trop mal, mais là, c'est plutôt un coup de gueule, c'est sur Hashtag Je suis là. Hashtag Je suis là d'Éric Lartigot. C'est l'histoire d'Alain Chabat, qui est restaurateur au Pays Basque, important, qui est obsédé par une discussion qu'il a sur Internet avec une Coréenne. Ça l'obsède et en gros, il fait plus attention autour de lui. C'est son fils qui reprend le resto. La rénovation du resto, tout ça, il est plus... même un moment, il manque de se planter. Et donc, du coup, il décide de partir voir les cerisiers en Corée, voir fleurir les cerisiers en Corée, et donc rencontrer cette fameuse Soon avec qui il discute. Et donc, il part en Corée, et elle ne vient pas le chercher à l'aéroport, du coup. Bon, il reste planqué à l'aéroport, et voilà. Donc, c'est très sympa. Il y a un côté Le Terminal. Tu sais, le film de Spielberg, voilà, avec Tom Hanks qui reste coincé dans le terminal d'un aéroport. Là, il a le droit de sortir. C'est juste qu'il attend comme un con pendant 10 jours. Et après, non, finalement, il décide de voir. Donc, on se doute que l'aéroport de Séoul a mis plus de pognon que l'office de tourisme de Séoul. Je trouve que c'est très doux. Ça parle sur la présence à soi, la présence aux autres, la présence dans la vie. Maintenant, à quel point on est obsédé par les réseaux. Et d'ailleurs,
de notre temps par rapport aux réseaux sociaux et la vie qu'on a à côté, quoi.
C'est ça, l'attention qu'on porte aux autres et tout. Bon, après, il y a 2-3 notions. Il y a des notions coréennes, tu sens qu'ils ont tapé sur Google vite fait, qu'ils l'ont casé dans le scénario, mais bon, allez. Hein?
Je pense que ça m'aurait fait mal.
Oui, bon. Mais il y a un truc, par contre, moi, qui m'a gâché le plaisir, si tu veux, c'est que, je l'ai dit, le départ, ça se passe au Pays Basque. Bon, très bien. On a Alain Chabat, ses fils, en gros tous les personnages nommés quasiment, qui parlent comme d'habitude. Donc Alain Chabat parle comme quand il est à Paris, donc il n'y a aucun souci. Même si Alain Chabat joue un restaurateur de génération en génération et que tout le monde a été élevé au Pays Basque, que bon, normalement ils ont tous l'accent du coin, c'est pas grave. Non mais, on a l'habitude, c'est pas grave. Et là, on a Blanche Gardin qui débarque avec... un putain d'accent du sud forcé, qu'on sait pas d'où il sort, elle le force.
Elle nous a fait une Colin Farrell, c'est ça?
Mais c'est ça, mais en plus j'y pensais, voilà, quand on parlait de The Gentleman et Colin Farrell qui force son accent, là, elle te sort un truc de nulle part. Du coup, elle est la seule dans ce restaurant à avoir l'accent du sud. Il n'y a que des 2-3 figurants qui jouent des chasseurs ou des trucs, quoi. Mais dans le fond, s'il y a un vendeur.
Qui doivent être déjà du coin, quoi, enfin, qui ont l'accent de là-bas naturellement.
Oui, c'est ça, et puis qui ont juste un rôle comme ça. Et là, non, elle vient jouer, en plus, elle vient jouer un perso très terre-à-terre, pas vraiment cultivé, et qui vient jouer un effet de gag avec cet accent-là. J'étais au milieu de la salle avec les Parisiens qui étaient morts de rire à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, hein, parce que à cause de l'accent. J'étais outré. J'étais franchement outré. Je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe si elle va en Martinique, elle fait une blackface, comment ça se passe? C'est quoi le délire, quoi? C'est pourquoi
forcer à avoir à prendre les caractéristiques de d'une communauté ou d'une région si tu sais pas le faire.
Voilà, donc ça vient gâcher le truc. C'est une espèce de comique méprisant. Alors après, c'est pas le personnage ridicule du film, parce que on va surtout voir Alain Chabat qui part sur du vent en Corée. Donc
c'est le genre de petit détail qui des fois te fait sortir du film et qui tu pointes dessus à chaque fois, quoi. Regarde, c'est ce que t'as retenu.
C'est ça. C'est du coup, en plus, c'est dans la bande-annonce. C'est franchement, le restaurant est comparé à Shining, en fait. Ils décident de rénover parce que les avis sur Internet, oui, voilà, ils rénovent le restaurant à cause des avis sur Internet. Ils disent, ah ben, ça ressemble à Shining. Et ils demandent à la fille, hein, vous savez ce que c'est Shining? Elle fait, ah, Shining? Ah, je sais pas. Le film d'amour avec Sylvie Roberts, là, voilà. Bon. Alors c'est bien, donc elle sait pas ce que c'est Shining, c'est bien, en même temps elle s'intéresse pas, enfin, ça peut arriver, quoi. Donc j'imagine, ok, l'humour du personnage qui connaît pas Shining, qui croit que c'est un film romantique, ok, très bien, mais rajouter la couche d'accent provincial pour accentuer le côté arriéré, putain, c'est honteux, quoi. C'est honteux. Non mais quand Danny Boone fait l'accent ch'ti, je veux bien, mais c'est pas méprisant, quoi. Là c'est honteux, quoi. C'est ça, d'autant qu'après, parce que c'est la seule à faire l'accent, les autres, ils disent, oh, je veux voir les cerisiers, quoi. Il ne faut même pas l'effort de prononcer quoi que ce soit. Je ne vois pas ce qu'elle vient caler là. En plus, l'accent, en plus, on fait la même réflexion quand les acteurs américains essayent de prendre l'accent russe dans un film. Ben là, imagine que personne ne prend l'accent russe, sauf un au milieu qui se dit, tiens, je vais le prendre.
C'est John Wick.
C'est John Wick. Je crois que c'est dans Anna aussi, où ils essayent de le faire vite fait, le film de Luc Besson, là, un peu pourri, où je crois qu'il y a un acteur au milieu qui essaie de prendre l'accent, ou dans la série Marseille, où il y a les acteurs qui un coup ont l'accent, un coup ils l'ont pas.
Mais en fait, le truc, c'est ça, c'est qu'on a pris l'habitude de regarder des films maintenant en VO, c'est ce qu'on consomme, tu vois, et du coup, on va avoir énormément de personnages, enfin d'acteurs et d'actrices qui sont d'origine étrangère, qui n'ont pas l'anglais par exemple pour première langue et qui vont parler avec un accent. Du coup, l'oreille s'habitue à un accent naturel, tu vois. Ce qui fait que quand c'est forcé, on le ressent tout de suite. Il y a quelque chose qui cloche, tu vois. C'est comme les sous-titres. Quand les sous-titres sont décalés, ben ça, c'est dérangeant, tu vois. T'arrives plus à te concentrer. Ben c'est exactement pareil pour les accents forcés, quoi. C'est-à-dire que tout de suite, ça te titille l'oreille et t'es là et t'arrives plus à suivre l'histoire parce qu'il y a plus que ça que tu entends, en fait. Et faut pas faire ça. Chers réalisateurs, réalisatrices, il ne faut pas faire ça. Arrêtez de conseiller à vos acteurs de faire ça.
Si je me souviens bien, récemment, il y a la série de Tchernobyl, par exemple. Ils parlent en anglais, ils prennent pas d'accent à la con et ça passe très bien. Pourtant, ça se passe en Ukraine. Il n'y a pas besoin de ça, quoi. Bon, bref, on a parlé beaucoup trop longtemps de cet accent pourri. C'était notre avis sur les films de la semaine. Bon, Thierry était un peu loin, il était au Pays Basque justement, voilà. Pour la famille. Bien. On a encore un peu de temps finalement dans l'émission. On va en profiter pour voir un ou deux films de la semaine prochaine. On va prendre un peu d'avance sur la semaine prochaine. Mais là, Simon, j'ai besoin que tu utilises ton pouvoir. J'ai besoin de la voix d'Hera. Donc salut Yassa.
Salut Thomas.
Et à tout à l'heure avec la voix d'Hera.
Le corps de la victime présentait 7 plaies de profondeur variable, mais qui ont toutes été provoquées par le même objet tranchant type couteau de cuisine.
Mademoiselle Bataille, quelles étaient vos relations avec la victime Flora Dufour?
On était amis, meilleurs amis.
Vous affirmez donc, vous n'avez ni agressé ni tué Flora Dufour?
C'est bien ça. Aviez-vous connaissance du conflit qui avait éclaté entre Flora et Lise?
Je sais que Flora avait mis en ligne une vidéo qui n'aurait pas dû l'être.
Mais vous ignoriez qu'il s'agissait d'une vidéo à caractère pornographique de votre fille, n'est-ce pas?
Bon, on a parlé de criminels pendant une heure à peu près. Pendant trois quarts d'heure, on a parlé de criminels. Avec Birds of Prey, avec Harley Quinn et les Gentlemen de Guy Ritchie. Maintenant, il faut que justice se fasse. C'est l'heure du jugement.
Avec La fille au bracelet de Stéphane Demoustier. C'est son deuxième long. La fille au bracelet avec Mélissa Gers, Roche Dizem, Chiara Mastroianni et Anaïs Demoustier. Ne cherchez pas, oui, ils sont frères et sœurs. Voilà.
Non, mais vous allez vous poser la question, donc voilà.
On va suivre le procès de la jeune Lise, incarnée par Mélissa Gers. Lise, accusée du meurtre de sa meilleure amie.
À coups de couteau après une soirée arrosée.
Ça arrive souvent.
Voilà. Qui ne s'est jamais retrouvé avec un mort à la fin de la soirée? Bon.
Qui n'a jamais fait une soirée à Paris?
Et Lise, qui se retrouve accusée parce que... en partie, donc c'était sa meilleure amie. La fameuse amie en question avait posté une vidéo d'elle, enfin une vidéo de Lise où elle administrait une fellation à un garçon sur la vidéo.
Bou la mauvaise copine.
Ou la mauvaise copine, voilà. Et donc ça serait une histoire de vengeance, enfin on ne sait pas trop, mais ça serait le mobile, visiblement, de l'affaire. Bien, ça vous rappelle quelque chose, peut-être, si vous avez écouté les émissions précédentes, parce que c'est... écrit à partir du scénario d'Acusada, qui était un film argentin qui était sorti en 2019 en France. C'est reconstitué dans un cadre français et on a un procès à la française finalement avec un avocat général joué par Anaïs Demoustier justement, qui va porter la charge contre cette jeune fille.
Il y a pas mal de choses à dire vu qu'on a vu Acusada il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 6 mois. On va avoir du mal à pas faire une petite comparaison ou faire quelques petites comparaisons. Et là où Acusada se concentrait sur les parties plutôt hors procès et venait parler de la vie de la jeune fille pendant cette période de procès, qu'est-ce qu'elle pouvait vivre après son accusation, comment est-ce que tu continues de vivre quand t'as un bracelet à la jambe, quand t'as pas le droit de sortir, quand il y a plein de choses que tu peux pas faire, dont retourner sur les lieux du crime, dont essayer de toi aussi de te rétablir et de reconstruire quelque chose. Et là, ça parle plutôt de... on est vraiment concentré sur la période du procès. Donc il y a juste... donc le procès dure plusieurs jours, je ne sais pas exactement combien.
Ça dépend des affaires, mais oui, un procès d'assises, c'est sur plusieurs jours.
Clairement, là, on est sur bien 4 jours.
D'autant que là, en plus, il y a un élément en cours de procès qui fait qu'on demande une nouvelle expertise.
Ouais, alors allez, rajoute du timing dans le procès, c'est clair. Il y a effectivement de gros chefs d'accusation contre la nénette. Elle est complètement acculée parce que c'est la dernière à avoir quitté le domicile après une soirée, donc juste avant le meurtre. Il y a aucune autre personne accusée, donc le film va venir jouer aussi sur les doutes, autant de ceux des jurés que de la famille que des nôtres. Donc c'est assez intéressant parce que même si on n'a pas donc en vivant tout le procès et en retraçant l'instruction, on va être amené à se dire toutes les deux secondes, attends, c'est elle, c'est pas elle. Ah tiens, il y a ça qui me fait dire que bon, franchement, ça pèse pas en sa faveur. Et de l'autre côté, tu dis, ouais, mais quand même, il y a ça aussi où c'est pas... Ça, c'est pas trop logique. Donc le film va venir jouer là-dessus, et donc on est un peu, en tant que spectateur, déjà, on juge un film, en quelque sorte, nous on est critique, donc en plus c'est ce qu'on fait. Et donc là, on prend aussi la position de juré par rapport à ce procès, et par rapport à cette fille.
Moi, ça m'a vraiment rappelé les procès d'assises. C'est très bien reconstitué durant mes études de droit. Oui, j'ai fait du droit, j'ai pas fait du cinoche, pardon. Excusez-moi. Et donc, j'ai eu assisté à des procès d'assises. C'est exactement ça. On est dans cette ambiance-là, dans ce trouble. D'ailleurs, le réal a suivi plusieurs procès et a filmé quasiment dans les conditions. Par exemple, le président du tribunal est interprété par Pascal-Pierre Carbarini, qui est un véritable avocat dans la vraie vie. Et les figurants n'étaient pas au courant du scénario. Du coup, ils réagissaient en direct quand le scénario se dévoilait devant eux. Voilà.
Ah tiens, ça je savais pas, c'est plutôt bien rendu. C'est vrai qu'on est plongé en pleine cour d'assises. Moi j'étais vraiment scotché sur le siège et je me sentais plus devant un film, je me sentais vraiment devant un procès. En plus, comme je te confiais juste avant Thomas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je suis assez fan des procès, particulièrement aux assises. Et donc là, ouais, j'étais vraiment plongé dans cette ambiance oppressante où il y a un peu tout le monde qui se tire dans les pattes, où tout le monde essaye de tirer la couverture vers lui par rapport aux convictions, par rapport à ses valeurs. Et ça s'épanche pas, dans du too much comme on pourrait s'attendre. Comme c'est, parfois dans les films, les reconstitutions de procès, c'est larmoyant. On va venir te donner des larmes, des cris, des tristesses, des témoignages, etc. Là, on est plus face à des personnes qui sont vraiment, on sent qu'on est 2 ans après les faits. Et 2 ans après les faits, bah, t'as digéré, ton traitement de l'info, il est différent. La manière dont tu répètes encore une fois pour la énième fois ce que t'as dit dans ta déposition, c'est pareil, c'est fait différemment. Et donc, il y a vraiment cette froideur et cette distance qui est installée, qui est hyper agréable parce que très réaliste.
C'est ça. Donc, lors d'un excellent travail de reconstitution, le larmoyant, attention quand même, il y a deux trois points, il y a les violons qui se sont énervés à un moment dans les coulisses. C'était pas pendant le procès, c'était à côté du procès. Et du coup, moi, j'appréciais d'autant plus la sobriété du procès, finalement. On a un dispositif très simple.
C'est limite un peu documentaire. Et à la fois, on est plutôt bien entraîné dedans en se posant vraiment les bonnes questions. Ça joue plutôt bien, ça répond bien au... C'est un bon film. Ça va pas rester dans des mémoires pendant des mois, des années. Mais c'est un bon film de procès. Si vous aimez les films de justice comme ça, allez-y.
Allez-y. Alors attention, ça sort là le week-end où on sort l'épisode. Donc ça sort juste après, ça sort le 12 février. Voilà, c'est pas le seul film qui sort le 12 février. On en profite, la GRA sous la main. Là. On a vu 2 avant-premières il y a pas longtemps. Il y en a une qu'on a vue la semaine dernière avec Carl aussi, mais hélas, j'en ai pas parlé avec lui pendant Birds of Prey, on aurait pu. Quelque chose me dit que t'es plus approprié pour parler de ce film que Carl. Qui sort le même mercredi que La fille au bracelet. Il y a aussi le film 2 de Filippo Meneghetti. C'est son premier long. Un film avec Barbara Sukhova, Martine Chevalier et Léa Drucker. Une histoire d'amour entre 2 personnes âgées, 2 femmes âgées, qui vivent leur amour, mais en secret. Elles rêvent de partir pour Rome, de partir vivre leur amour. Le seul truc, c'est qu'il faut que Madeleine fasse son coming out à ses enfants. Fait qu'elle rencontre quelqu'un, qu'elle leur dise qu'elle a quelqu'un. Quoi.
Ouais, c'est aussi qu'elle doit... pour pouvoir partir en Italie, il faut des sous. Pour qu'il y ait des sous, il faut qu'elle vende son appart. Pour qu'elle vende son appart, il faut qu'elle explique à ses enfants pourquoi. Et là, il y a un gros bug. Je peux pas leur mentir. Qu'est-ce que je fais? Donc, on retarde la vente de l'appartement. Jusqu'à ce que
petit AVC, elle peut pas parler.
Voilà, sale histoire. Et le film va venir parler de Nina, donc son amante, va essayer de se rapprocher d'elle malgré l'AVC, de venir s'occuper d'elle, de venir prendre soin d'elle, d'essayer de guérir en fait, de lui faire reprendre ses mouvements, de lui faire reprendre ses esprits, jusqu'à ce que son comportement devienne un peu creepy pour tout le monde, pour la fille de Madeleine, pour la personne l'infirmière qui s'occupe d'elle à la journée, et jusqu'à ce qu'il cherche à écarter Nina sans comprendre qui elle est, et Nina qui n'arrive pas à avouer... à avouer la vérité non plus. Donc c'est un peu c'est l'histoire d'une histoire d'amour secrète qui peut pas être qui peut encore moins être vécue, et histoire d'amour secrète entre des femmes de 50 ans, ce qui est quand même assez amusant et rare.
Alors c'est amusant et rare, c'est un thème très beau. Moi en plus j'étais assez enthousiaste de la scène d'introduction. On a 2 petites filles qui jouent à cache-cache dans un parc, et puis soudain il y en a une qui disparaît, puis il y a des chants d'oiseaux. Ça, on se dit, ah, ça va partir dans le fantastique, ça va être merveilleux. J'espère que c'est pas une scène de rêve. Perdu, c'était une scène de rêve.
Ah, mais quelle tristesse, parce que ça aurait tellement pu partir dans quelque chose d'onirique. En fait, je crois qu'on s'est, Thomas et moi, on s'est complètement enflammés quand on a vu la première scène en se disant « Waouh, trop bien !» Et ouais, ça va partir dans quelque chose. Ça se trouve, ça va partir en film d'horreur. Il y aura des trucs, ça va être des anciennes sorcières, elles vont avoir des pouvoirs, il va se passer quelque chose de génial. Non, juste une histoire d'amour un peu plate.
C'était du niveau plus belle la vie, quand même. Mais non, un plus grand soleil, pardon, parce que ça se passe à Montpellier. Pardon, excusez-moi, mais... en gros c'est ça, pour 2-3 fulgurantes, il y a 2-3 scènes intéressantes comme la scène d'intro notamment, derrière ça déroule façon plus belle la vie, mais bon c'est sur un film de quoi je ne me souviens plus, c'est 1h30 ou 2h, mais bon.
C'était 1h35, mais c'était austère en fait, c'était vachement sobre, c'est très austère, il n'y avait pas de gros travail de mise en scène, pas de gros travail de lumière, ce qui fait que c'était très plat en fait, c'est vraiment... Là, trop sobre, pour le coup. Vraiment trop sobre. Ça donnait pas envie. Mais pourtant, la relation des 2 personnages est belle. Donc, dommage.
Dommage, ouais. Surtout que, bon, on dit ça, mais moi, j'ai vu la bande-annonce après avoir vu le film, parce qu'elle est projetée en ce moment, là, avant les films. La bande-annonce spoil tout le film.
En même temps, à part l'AVC, ce qu'on a dit au bout de 2 minutes nous-mêmes, il n'y a pas grand spoil.
Oui, non, ça aurait pu faire 1 heure au lieu 1h30, mais bon.
C'est encore une fois le problème quand t'étires le scénario d'un court-métrage en un long.
Là, la semaine prochaine, pour l'instant, on est plus sur le film de procès que sur le film d'amour. Hein,
ouais. Et ouais, pour une fois.
Merci Ira.
Merci Thomas.
On a un peu élagué les films de la semaine prochaine parce qu'il y en a pas mal la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, il va falloir aller très 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 vite, même plus vite qu'un Hérisson bleu.
Vu que c'est absolument pas un film qu'on va voir, j'avais pas compris ta référence.
Ah mais on va faire surprise, on va dire ouais non mais on va voir le film Untello. On va voir Un divan à Tunis, Sarah.
Oh non, je me suis encore fait eu.
Mais disons, il est bizarre ce patient, il est tout bleu, il court partout. Bon, cela dit, avec Jim Carrey, on pourrait se croire à l'asile, c'est bon.
Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Mais bon, on va quand même plutôt aller voir Un divan à Tunis.
Bref, les deux seront dans la prochaine émission. Mais en attendant la prochaine émission, je vous dis, c'était certain les machos. On se retrouve la semaine prochaine avec cette émission-là et comme tous les autres sur votre application de podcast préférée. En attendant, on se chope, on se like, on se chope aussi, oui. On s'envoie des mots doux et autres, mais pas des vidéos porno, s'il vous plaît, sur Twitter, Facebook, Instagram, à Clac Podcast, C-L-A-A-C Podcast.
Retenez vos ardeurs.
S'il vous plaît, enfin, on se calme. Par contre, vous pouvez envoyer des likes, des tweets, tout ce que vous voulez. Des vidéos d'amour, tiens, envoyez des vidéos d'amour. De l'amour, de l'amour.
Valentin la semaine prochaine en plus.
Oh oui. Oh oui, de l'amour, de la Saint-Valentin. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous.
Bisous.
Ah oui, non, Thierry est absent, mais il nous a laissé un mot sur les Birds of Prey.
Et sacré bombasse.
Ouais, c'est pour ça qu'il est pas resté en fait.